Chaque jour, ou quotidiennement, nous avons les barges russes avec Helmut Schwartz et Johnny Tiefbeck. Nous allons revenir au XVIe siècle. À la pré-aube du cyberpunk, au moment où la société européenne traversait une des crises les plus meurtrières, plutôt, dans guerre via les convictions religieuses, des épidémies qui en découlent, la nécessité s'impose donc de concevoir un droit, des contrats, qui se maintiennent au-delà des clivages religieux. Dans l'intérêt commun, les échanges commerciaux doivent pouvoir avoir lieu en dépit de la fragmentation de l'espace normatif à l'aube des temps modernes. C'est-à-dire que malgré qu'il y ait la guerre, il faut quand même qu'on continue à faire circuler le marché. Donc, il faut qu'on fasse des contrats, déjà au XVIe siècle. Sur ce point, j'ai beaucoup lu là sur de Wim de Kock, le marché du mérite. Donc ça, ça en est tiré, ce que je viens de vous lire. C'est aux éditions Zone Sensible, excellent. Il y a aussi Sylvain Piron. Le statut de monopole entre en rigueur. S'avère être par conspiration entre néolibéralisme, par des rachats simultanés des mêmes marchandises, par exemple, pour devenir le détenteur unique, une quasi-suprême. En fait, tout ça, tous les monopoles, c'est le et les fraudeurs du et des marchés. Et actuellement, on peut exactement tirer les mêmes conclusions. Car la concurrence faussée, le marché n'arrive plus à générer de profits que pour une caste de privilégiés. Les concurrents, les consommateurs et toute la communauté des citoyens viennent à en souffrir. For example, Amazon, man. Y a un bouquin que je voulais, il n'y avait plus que Amazon qui avait tous les... Enfin, les neuf, hein, en occasion, bien sûr, ils coûtaient très cher. Hein. Et en neuf, bah, non, c'était pas cher. Ils avaient racheté tous les stocks, les mecs. Le cyberpunk est basé sur une économie identique. Bon, bah, ouais, grosso modo, quoi, mais dans le futur. Dans un futur où plus de concurrence de marché, ou dans un futur où il n'y a plus de concurrence de marché, où il n'y a plus d'unité, plus de personnes, qui étaient déjà des individus en série, hein, entre nous, malgré leur singularité, hein, des personnes. Eh ben non, ça n'existe plus, c'est plus possible. Donc, plus de déchéance religieuse, parce que bon, on voit aujourd'hui l'état de la religion, enfin, par rapport, je dirais, à la masse de gens qui, au Moyen-Âge, par exemple, étaient religieux, aujourd'hui, ça a chuté. C'est dans ce sens-là que j'utilisais le mot déchéance. Car il n'y a plus de religion. Dans le futur, il n'y aura plus de religion. En revanche, il y aura des êtres robotisés, mais qui seront déconnectés de la doctrine calviniste et luthérienne de prédestination. Car il n'y aura aucun moyen de ne pas être exploité. Il n'y aura plus de prédestination, parce qu'en fait, ce sera la naissance, c'est comme en Chine, quoi. Quand je disais que la Chine, c'était le cyberpunk à l'extrême, c'était ça. Bah tu naîtras, puis il faudra que tu ailles travailler. Bêtement. Mais tu n'auras plus de vie, hein. Tu n'auras plus de barbecue, ni rien, non, ça va pas. Ta vie sera programmée, c'est ça. Bref, donc j'en ai déjà parlé, mais le calvinisme, c'était le libéralisme extrême, quoi. Il n'y a pas de place pour le reste, c'est pour gagner de l'argent, quoi. Uniquement. Et donc les calvinistes et les luthériens, surtout les calvinistes, j'ai lu là-dessus en tout cas il y a longtemps, que si tu gagnes de l'argent, c'est que Dieu est avec toi. Et si tu n'en gagnes pas, c'est que Dieu n'est pas avec toi. Je vous la fais rapide, mais c'est ça, en gros. Donc à présent, on va s'écouter Said Your Name par Brian Case. Donc j'ai appris qu'en automne 2021 allait sortir le troisième volet de la trilogie Trademark, qui se nomme Mort Trademark de Jean Barret, que j'ai interviewé et j'adore son œuvre. Qui sera, c'est qu'il l'avait dit à l'interview que j'avais pu avoir de lui, sur la religion. Donc ça, je suis très pressé parce qu'en fait ça colle avec un petit. Bon, ça colle, non, mais c'est sur le même thème que ce que je suis en train de vous parler à présent. J'ai obtenu trois réponses de Jean Barret à des questions que nous avions préparées. Que penses-tu de l'avenir théosophique dans l'avenir de consommation? Jean Barret répond: Je ne pense pas que tu fasses référence au système de croyances Blavatsky, mais d'une manière générale à la recherche spirituelle. Ce qui est juste. Cette dernière se transforme et suit les évolutions du monde moderne. Nous sommes passés de l'amor dei à l'amor sui. Et partant, la recherche spirituelle est très présente. Alors l'amor dei et l'amor sui, c'est l'amour de Dieu et l'amour de soi. Quand on s'intéresse à son bonheur personnel et uniquement à son bonheur personnel, la spiritualité peut être vue comme un moyen de s'épanouir. C'est également un outil très prisé pour la performance, d'où la floraison insensée de livres, coachs et autres séminaires dédiés à t'aider à devenir une meilleure personne, soi-disant plus épanouie et plus performante. En bref, je pense que la recherche de spiritualité est marchandisée, comme le reste. Elle n'est plus un but en soi, mais un moyen. Et si notre monde poursuit sa dynamique actuelle, la spiritualité sera de plus en plus présente. Et ça, je ne sais pas si tu as remarqué, Johnny, mais on remarque dans Bonheur Trademark, c'est ça en fait qu'il dit. Oui, tu as raison. Le premier de sa trilogie. Oui. Mort Trademark sort en automne. Ouais. Et qui va porter sur la religion. Donc c'est ça qui est très important, très intéressant. Seconde question. La religion correspond-elle à une utilisation de fonds financiers, une entreprise comme les autres, qui va se faire effacer dans le futur cyberpunk ou autre? Alors maintenant, la réponse de Jean Barret. Ta question me fait penser au film Babylon AD. La réponse est oui, bien entendu. Ne parle-t-on pas de commerce des âmes? Après, tout dépend de ce que tu entends par religion. On peut tenter trois définitions. 1. La spiritualité qui est une forme de recherche libre. 2. La religion qui est une croyance à un dogme. Et 3. La structure économique qui dirige le culte. Entre parenthèses, église, temple, mosquée, synagogue, etc. Il y a de nombreux exemples. La spiritualité est en plein développement car elle sert l'amor sui, l'amour de soi. Elle est un outil destiné à cultiver son bonheur et sa performance. La religion ne correspond pas forcément à ce besoin. On y adhère par la foi, ou bien par l'éducation et la culture. Mais la puissance du marché est telle sur notre psyché que je note une tendance à considérer la religion comme un bien immatériel, certes, mais un bien quand même. Je consomme Dieu comme le reste. La structure économique est, quant à elle, évidemment financière et peut être considérée comme une entreprise comme les autres. Quant à son effacement dans le futur, cyberpunk ou autre, je ne le pense pas. La spiritualité perdurera, la religion certainement aussi, car elle répond à un besoin de transcendance. La religion n'est pas la seule à répondre à ce besoin, certes, mais elle le fait très bien et depuis longtemps. Elle prendra peut-être d'autres formes, comme par exemple le mouvement de transhumanisme, qui peut être vu comme religieux. Mais la religion perdurera tant que les humains auront besoin de transcendance. Quant à la structure économique, aucune raison qu'elle soit effacée. C'est en effet une entreprise comme les autres. Et dernière question à présent, les néolibéralismes ont-ils besoin des religions pour maintenir un équilibre de marché entre leurs concurrences? La réponse de Jean Barret, je ne pense pas que les religions soient uniquement l'opium du peuple. C'est le cas, certainement, en partie, mais ça ne suffit pas à définir l'impact des religions dans la société. Et je ne crois pas qu'une intelligence machiavélique ait inventé la religion comme une façon de contrôler les gens. Je pense vraiment que la religion est une réponse transcendantale à l'angoissante question de savoir quel est le sens de l'expérience humaine. L'économie de marché, toute puissante, n'a pas besoin des religions. Mais elle n'a rien contre non plus. Elle les avale, elle les transforme, elle en fait des biens de consommation. Alors Johnny, qu'est-ce que tu penses? Ben moi, je trouve que c'est excellent, c'est super. Il y a le dernier point sur lequel on va essayer. Tu as envoyé des trucs, tu l'as répondu? Non, pas encore. Et donc il faut répondre parce que faut discuter de ça. Dans quel cas la religion ne serait pas une création d'une force machiavélique? Ça, il faut parler de ça. C'est peut-être juste, comme ça peut être faux, c'est un point de vue comme il le dit, c'est selon son point de vue. Le cyberpunk, serait la suite logique du 16e, en gros. En fait, je pense que le 16e, ça, tout a commencé là. Après, à savoir que c'est là, il parle de scolastique moderne. La scolastique, c'est... bon, ils en parlaient au niveau, on va dire, 12-13, quoi. Bon, à peu près. 10, 11, 12, 13. Allez, pour voir large. Donc, le cyberpunk serait la suite logique du 16e, lorsque Luther ou Calvin donne la possibilité, via le protestantisme, de se réveiller et saisir la réalité économique où le christianisme catholique stimulait l'aspect matériel des pratiques de dévotion, organisait un marché de dévotion moyennant de l'argent comme de l'argent sonnant les péchés. En fait, c'était la grosse économie catholique, c'était ils en étaient à faire payer pour qu'on les absout, pour que Dieu les... Enfin, c'était dingue, quoi. Pour que Dieu... comme la confesse, quoi, par exemple. Mais sauf que tu payais, quoi. Bah, tiens, t'étais à la confesse. Et tu disais un péché que t'avais fait. Et là, bah, je vous la fais courte, mais... bon, bah, ok, tu payes tel prix, et puis Dieu sera gentil avec toi. En gros, c'est ce que j'ai lu. Et si c'était le cas, c'était un peu... olé, olé, hein. Bon, et alors là, c'est pour ça qu'en fait, apparemment, ce sont Luther, il était très très énervé, très très remonté contre ça, et c'est pour ça que qu'il aurait créé le protestantisme. Je vous la fais rapide, hein, parce que c'est pas vraiment, il y a pas les détails dans tout ça, mais en gros, même si on parle de religion quand même, donc je peux pas dire ce genre d'expression, mais voilà. Donc tout ça finit, il n'y a plus d'argent dans les poches de personnes, donc on est au cyberpunk, là, on n'y revient dans le futur. Aujourd'hui, c'est très proche. Hein. Tout ça finit, comme je dis, il n'y a plus d'argent dans les poches de personnes, de aucun individu même, plutôt. Et est-ce seulement donné, même prêté, je dirais, par le haut modernisme, les crédits nécessaires pour consommer ce qu'ils veulent qu'on consomme? Et c'est tout. Non, rien de plus. Hein. Donc, plus d'argent à donner pour croire en un Dieu sauveur du monde. Ça, non, il n'y a plus la peine, parce qu'il n'y a plus de religion. Ni une politique qui rétablira la paix. Parce que c'est la paix dans le monde. Hein. Et vu que c'est eux qui contrôlent tout, il n'y a pas de problème. Hein. C'est juste le problème de concurrence néolibérale, peut-être. Mais bon, ça, c'est leur délire. Hein. Ils font ce qu'ils veulent. Il n'y a plus rien, il n'y a que des zombies consommateurs, nous, qui peuvent toujours prier, ça, ils ont toujours le droit, s'ils ont encore un peu d'intelligence, peut-être, enfin, de réflexion possible, et agir sur le droit des morts, parce que, bon, des fois, par la pensée, la prière, ça peut amener, ça peut rendre quelque chose. Voir interview avec l'espoir, l'espérance là, que j'ai faite il n'y a pas longtemps avec Paul. Donc il y aura les zombies, les consommateurs, hein, tout cela. Pas grand chose à faire d'autre que prier s'ils ont encore un peu de réflexion. Mais même ça, c'est même pas sûr qu'il leur en reste de la réflexion avec l'aboutissement que nous propose le modernisme. Et il y a les super riches. Donc eux, ils savent tout. Hein. Ils savent tout depuis la nuit des temps. Ils sont... Oh, je pense hyper intelligent, tu vois. Mais hyper bâtard, aussi. Donc, tout ce monde a lieu dans une société qui fait la ville. Jour après jour. Tout se fait pour... c'est la société qui fait la ville. Et comme c'est le modernisme qui gère la société, avec des bâtiments, des tours, des maisons carrées pour leur commodité... Il n'y a plus besoin de s'adapter aux méandres d'une maison, ni réfléchir pour essayer d'arranger la maison. Finir enfermé chez soi pour se croire libre à regarder un papier peint jaune. Oui, ah, c'est joli. Un papier peint jaune. Être sublimé, le voir bouger en nous. Mais provoquant une métamorphose intérieure, alors qu'il suffit de l'arracher pour pouvoir mettre un pied en dehors. Donc là, en fait, je parle d'un livre que je viens de finir là, Papier peint jaune. C'est une nouvelle qui est absolument fascinante. qui a été édité en 1892 aux tendances qui est de 1892, qui vient d'être réédité aux tendances négatives, édition tendances négatives. C'est une nouvelle de Charlotte Perkins Gilman, et c'est absolument, c'est sympa. Et l'édition, elle est avec du papier peint jaune, et c'est vraiment sympa. C'est une belle édition, qui est pas très chère, bah 9 euros pour une nouvelle. Bon, c'est sûr que non, c'est quand même cool. C'est un bel objet. Et bah voilà, moi bon, vous écouterez en podcast, mais bon, c'était pas un petit truc sympa à ce livre qui était assez proche de d'une réalité de bruit de frustration et de trucs comme ça, une psychose qui peut se libérer lorsqu'on prend les devants et qu'on arrache, qu'on se réveille, qu'on frissonne, qu'on fracasse, qu'on fasse quoi que ce soit pour changer. C'est ça qui est vraiment très bon, qui permet le mouvement.
Les villes sont achalandées par la société, et pour sortir de la crise économique, peut-être faudrait-il les détruire. Si on recasse toutes les villes, on reconstruit, et la société est, en un sens, perd tout ce qu'elle a acquis. Mais c'est la société qui perd, pas le modernisme qui, lui, continue à nous étriquer. Peut-être quand même qu'il faut tout détruire pour recommencer. Who knows, you know?
Donc à présent, on va s'écouter You Agent Man du Cabaret Voltaire.
Thank you.
revenir à la Chine.
De la Chine ? Mais attends, tu parles de religion chrétienne du XVIe siècle en Europe, et après, tu vas à la Chine, qui n'a pas de religion, déjà. Qui, eux, sont vraiment... C'est le cyberpunk extrême, c'est la Chine, hein, qui a un aspect nouménal, philosophiquement nouménal, qui voit ça sur l'instant présent, qui est l'état, enfin, la superficie géographique de la sagesse par excellence, comparaison avec l'Occident, qui est plutôt la philosophie de la connaissance, si on peut dire ça comme ça. Bah, t'es balèze. Ah, vraiment, là, t'es balèze. Hein. Tu passes du coq à l'âne, d'une chose à l'autre, comme ça, avec un truc ni vu ni connu, je t'embrouille, quoi. C'est pas mal, hein. Vraiment, là.
L'économie du marché de la Chine est un chaos. C'est un chaos de sang et de tissu qui fait marcher et avancer un peuple corrompu par son exploitation. L'esprit de la masse chinoise est retiré de la raison première du pourquoi survivre, qui est transformé en contrainte sous les ordres du système parfait, pourtant lui-même esclave du marché qu'il crée. C'est ce que je disais là tout à l'heure. Le chinois, il se réveille que pour une chose. Et que pour survivre, quoi. Que pour acheter les biens de consommation qui lui sont proposés. Et que son patron lui propose, en gros, hein. C'est pas vraiment ça, mais que le haut modernisme lui propose. Donc les guerres néolibérales, pour garantir le pouvoir d'acheter leur camelot aux consommateurs, qui sont aussi acteurs du marché, dans un circuit économique conçu pour accroître de manière artificielle les besoins des individus, afin de relancer sans cesse la machine productiviste. Forcément. Parce que la machine productiviste, elle a besoin d'argent pour continuer à se développer, et de l'argent des acteurs consommateurs. Donc, les écologistes, par exemple, sont des ennemis de ce système. Alors, comme on a pu le voir précédemment, l'illusion de l'avenir... On s'arrête en réalité à un déséquilibre qui a su dépasser la société pour s'installer dans l'individu du néolibéralisme. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on vit dans une illusion. Là-dessus, les guerres néolibérales, comme je viens de le dire juste avant, dans un circuit économique conçu pour accroître de manière artificielle les besoins des individus, afin de relancer sans cesse la machine productiviste. Et contre ça, enfin, j'ai trouvé un exemple, il y a les écologistes, par exemple, donc, qui seraient des ennemis de ce système. Et justement, je vais interviewer avec vous JPA, dans les années 60-70, était un auteur de SF français. Donc voilà, je voulais avec lui qui nous partage... son parcours justement vis-à-vis de la science-fiction et de l'écologie.
L'écologie ou la conscience écologiste et la science-fiction se sont en fait mêlées très, très tôt dans ma vie, quoi, même si j'ai commencé à lire de la science-fiction très très jeune, hein, comme je répète souvent, le tout premier livre de SF que j'ai lu, j'avais moins de 10 ans, j'avais peut-être 8-9 ans, C'est La guerre des mondes de Wells qui m'a vraiment très très marqué,
ah oui,
et qui m'a aiguillé après pour lire tout ou presque ce qui paraissait en science-fiction. Donc, comme je lisais beaucoup, j'ai eu envie d'en écrire, j'ai commencé à écrire quelques textes vers 15-16 ans, comme tout le monde, comme tous les ados,
oui.
Mais c'était très mauvais, puisque ma première nouvelle publiée, c'était 15 ans après, j'avais déjà 30 ans,
oui.
Et c'était en mai 68.
Ah.
Pour moi, comme ça, c'était un hasard, mais un hasard qui m'est très favorable.
Oui.
J'aime bien rappeler et raconter, voilà. Et puis l'écologie, la science-fiction, elle traite du futur, forcément, plus ou moins proche. Mais quand on parle d'un futur proche, bah forcément, on tombe sur les catastrophes, sur les cataclysmes qui ont déjà eu lieu ou qui nous attendent, hein, que ce soit la pandémie qu'on vient de subir, qui est loin d'être la première ni même la plus grave. Et puis maintenant, bien entendu, l'effet de serre qui nous menace très très directement, quoi. Voilà, on peut dire ça. Et mon écriture, c'est vrai, j'ai pas fait que ça. Bien sûr, j'ai aussi traité de sujets plus fantastiques, quelques space opéras, mais pas beaucoup.
Oui.
J'ai tenu compte des réalités écologiques dans nombre de mes récits, dont mon gros recueil qui s'appelle Le Monde Enfin, quoi. Voilà, ce qu'on peut dire.
D'accord.
En gros, mais je peux vous donner plus de détails.
Oui, bah allez-y, je veux pas vous arrêter. Ouais, c'est ce mouvement qui est très intéressant, qui d'un point qui est de la science-fiction, donc qui nous intéresse vivement aujourd'hui, c'est jusqu'à l'écologie, l'écologie qui s'avère être en fait omnisciente aussi, quoi, partout.
Oui, bien sûr. Moi, je dis même que je sais plus quoi écrire en science-fiction, sinon me répéter sur les catastrophes qui nous attendent, qui sont déjà là et qui ne peuvent que s'exacerber dans 10 ans, dans 20 ans, dans 50 ans.
Oui, c'est ça.
C'est pour ça que je trouve que la science-fiction, ça c'est un avis personnel, hein, est arrivée à une espèce d'impasse. En tout cas, la science-fiction telle que je le pratique, mais on peut aussi faire des space opéras qui se passent dans 10 000 ans dans le futur où l'humanité a conquis la galaxie, mais ça c'est autre chose, quoi. C'est une autre manière de voir un avenir tout à fait mythique et mythifié, mais mystifié même.
Oui.
Donc voilà, quoi. Mais il y a plein d'auteurs qui m'ont précédé ou accompagné dans ce genre de science-fiction. Moi, je voudrais quand même citer un auteur anglais qui s'appelle John Brunner.
Ah oui.
Qui a écrit Tous à Zanzibar et
Le
Pot aveugle. Il a écrit ça dans les années 60 et ça pourrait être écrit aujourd'hui.
Oui, c'est exact.
Tellement il a vu et la pollution et la surpopulation et tout ce qui s'ensuit, quoi, voilà.
Mais d'ailleurs, vous avez écrit plusieurs nouvelles sur le nucléaire.
Bah oui, le nucléaire.
Vous étiez en plein dedans, quoi.
Je suis pas le seul.
Oui, bien sûr.
Mais un des combats, si je peux dire, parce que j'ai été, je dis pas, c'est toujours prétentieux de dire qu'on a été les premiers, mais disons que j'étais parmi les premiers dès les années 70 avec des gens comme Pignero, par exemple, qui se battaient contre le nucléaire. Non seulement le nucléaire militaire, bien sûr, mais aussi le nucléaire civil. Et malheureusement, on a eu raison. Il n'y a qu'à voir Tchernobyl et Fukushima.
Oui, c'est ça.
Peut-être d'autres dans le futur, quoi. Ouais. Donc, j'ai écrit plusieurs textes, effectivement, dont un court roman qui s'appelle Les Retombées, où on voit une explosion nucléaire, sans que je dise si elle est militaire ou civile, un groupe de survivants qui errent dans un paysage dévasté, puis qui sont repris en main par la police, par l'armée, parce que c'est aussi un de mes sujets qui, je crois, est permanent et réaliste. En cas de catastrophe, eh ben, la société se referme, quoi, avec de bonnes ou de mauvaises raisons. Mais le cataclysme peut très bien déboucher sur une dystopie, parce qu'on veut reprendre en main un monde détruit, quoi. Voilà, c'est aussi une de mes certitudes et un de mes thèmes comme romancier.
Mais justement, là-dessus, je me suis penché dessus et je me suis dit, par rapport à l'économie telle qu'elle est aujourd'hui, entre les néolibéralismes, si on détruisait les villes, est-ce que les villes qui sont exactement faites pour les sociétés font les villes, et si on cassait tout et on recommençait, vous pensez que ça changerait quelque chose?
J'en sais rien. Donc les gens quittent les villes, reviennent à la campagne, reviennent à la culture. C'est un peu mythique, ça, hein, parce qu'on est quand même 8 milliards, hein, puis on sera 9 milliards, puis on sera 10 milliards. Les 90% de la population vit dans des villes. Ça serait un petit peu difficile de quitter ça et de retourner au 19e siècle et au 18e siècle, quoi, ce qui n'est pas non plus vraiment la solution. Quoi. On appelle ça des utopies régressives dans les belles années 70.
D'accord.
Mais c'est vrai que on doit aller vers l'avant, mais un autre avant, mais pas retourner en arrière. Ça, je ne crois pas. Je crois pas que ce soit possible.
Non, mais après, est-ce que vous pensez aussi que il y a quand même une élite, quoi, non?
J'aime pas ce mot, quoi.
Non, moi non plus, mais on comprend ce que je veux dire, quoi.
On doit être... On dit tous ensemble, tous ensemble. Oui. Tous ensemble. Sinon, rien n'est possible, quoi. Alors, qu'il y ait une prise de conscience, c'est certain, par beaucoup de gens, qui mettent maintenant, puisqu'ils ont le couteau sous la gorge, l'écologie au premier plan, ça vient quand même un peu tard, quoi.
Ah ouais, bah oui.
Les petits pas que disait Nicolas Hulot quand il a démissionné, un petit pas vaut mieux que rien, mais il vaudrait mieux des grands pas, quoi. Et là, on retombe effectivement sur le capitalisme, il faut dire les mots comme ils sont, hein. Le capitalisme qui, effectivement, détruit la planète et détruit les gens qui eux-mêmes le font, mais ils n'en rendent pas compte.
Oui, c'est ça.
Le profit à court terme, oui. Et voilà, quoi. C'est difficile de dire qu'on peut s'en sortir, quoi, parce que maintenant, on est dirigé, effectivement, par un capitalisme mondialisé et qui obéit à la loi du profit sans regarder ce qui va se passer dans 10 ans ou 20 ans, voilà, quoi. Dire qu'on prône pour la croissance infinie dans un monde fini, ben, y a que les imbéciles ou les capitalistes qui peuvent, ou les économistes qui peuvent dire ça, quoi. Donc le combat se situe sur plein de terrains, quoi. L'écologie, le nucléaire, le capitalisme, c'est pas les villes qu'il faut détruire, mais c'est le capitalisme tel qu'il est pratiqué maintenant, je crois.
Oui. Ouais, c'est sûr. Après, je disais le mot ville pour donner une... matérialiser le capitalisme, peut-être. Mais oui, je suis complètement d'accord avec ce que vous dites.
De toute façon, si George Orwell a situé 1984, qui est pour moi un ouvrage phare, dans une grande ville, une ville immense, c'est bien que les décisions se prennent dans les villes, effectivement. Quoi.
Ouais.
Mais encore une fois, je ne pense pas que tout le monde puisse vivre à la campagne.
Ah oui, c'est sûr. Ah ouais, ouais.
Si on se réduit à 1 milliard d'habitants, comme on l'était il y a 150 ans,
ouais,
quoi, pas à 9 ou 10 milliards, c'est certain.
Ouais. Ouais, ça, je suis d'accord avec vous. Moi, le premier, je me vois mal habiter, comme vous le dites, avec une peau de mouton sur le dos et puis avec du feu dans la cheminée, quoi.
Je veux dire, mais sans caricaturer, on peut très bien vivre à la campagne et cultiver son champ. Mais encore une fois, on tombe là sur un autre de mes sujets favoris et de mes hantises favorites, dont on ne parle pas, c'est la surpopulation. Au contraire, on dit, mais faites des enfants, la population vieillit, faites des enfants jusqu'à quand la Terre peut abriter 10 milliards de personnes, 12 milliards de personnes, 15 milliards de personnes, alors qu'on sait que l'eau va manquer. C'est encore une absurdité, moi, qui m'interroge, et qui, plus que ça, qui me hérisse, et même qui m'enrage, quoi.
Mais, bien, voilà. Mais après, je suis encore complètement d'accord avec vous. Mais si on revenait... À aller dans les champs et tout, et à cultiver sa propre... de la nourriture même, tout simplement. C'est qu'on ne sait plus le faire, ça. Enfin, c'est pas compliqué, vous me direz, hein, de mettre des graines dans de la terre et puis l'arroser.
Je pense que ça serait quand même assez facile de
oui.
se mettre, quoi, avec des gens qui nous enseigneraient.
Voilà, avec des gens qui nous enseigneraient.
Retourner un champ, planter des graines,
ouais.
Non, je pense que c'est assez facile, mais encore une fois, il y a trop de monde et c'est la place qui manque, quoi. Mais on peut... Non, on peut y arriver, quoi. C'est... Moi, un espèce de morcellement, de pulse, de kibbutz au bon sens du terme, oui, pourquoi pas, je veux dire. Mais n'empêche que certaines choses, notamment dans le domaine de la médecine, par exemple, de la chirurgie, de la génétique, c'est pas des choses qu'on peut abandonner, parce que c'est un progrès, ça, quand même, quoi. Hein.
Oui.
Donc, il y a des choses à garder, puis d'autres à ne pas garder, et évidemment... L'équilibre est difficile à faire, mais c'est ça qu'il faudrait faire, quoi. Voilà.
C'est ouais, c'est aussi l'utilisation de toutes ces découvertes scientifiques par rapport aux gènes ça peut être mal utilisé
à des fins.
Comme souvent, oui, comme toujours. Ça, oui.
Où est-ce qu'on peut aller trop loin? Moi, j'ai pas la réponse.
Ouais.
Chaque cas est un cas particulier. Et c'est effectivement l'homme quand il découvre quelque chose. Il veut l'utiliser. Une fois qu'il est utilisé, il découvre autre chose. Alors, il y a des choses qu'il ne faudrait pas utiliser, d'autres oui.
Demain, Le Monde, le recueil dont nous parlait JPA, est édité au Bélial et recoupe 22 récits. 22 récits sur 45 années. En plus de ça, JPA, très convaincu par tout ce qu'il vient de nous dire... Il a fait un film en 2019, il a été monté là en 2020, et c'est un film qui est hyper intéressant, qui même à moi me reste en tête tellement il est vraiment excellent, Et donc, le nom de ce film, c'est presque déjà la fin. Et il est vraiment, vraiment cool. Donc je répète, le film est presque déjà la fin de Jean-Pierre Andrezon. Le code est presque. Je répète aussi Demain le Monde, le recueil de nouvelles de JPA. Vous connaissiez en fait Monsieur Andrezon, JPA, l'auteur de science-fiction?
Je le connais par ses écrits. Ouais,
ouais.
Mmh.
Ah oui, bah, ce qui a été reparu, qui est reparu là, Demain le Monde de.
Oui,
De chez Obélial, ouais.
Oui, c'est ça, qui avait été remis en forme et qui avait donné. Quand on mettait les nouvelles bout à bout, ça donnait presque un roman. Je l'avais lu il y a quelques années et c'était un très bon moment de lecture.
Et justement, je voyais vous aussi, vous avez écrit sur l'écologie. D'ailleurs, c'est un livre que je suis en train d'essayer de me procurer. Et lui aussi, il a des convictions incroyables, surtout l'écologie.
Il est militant, oui.
C'est ouais, voilà, militant.
Un militant français qui a été militant en matière d'écologie, ouais. Oui, tout à fait.
Et il me disait qu'il a été dans les... Il a écrit dans le premier des années 70, le premier magazine vert, quoi.
Exactement. C'est un des pionniers de la pensée écologiste mise en forme littéraire. Oui.
La barge russe, tous les jours, à 14h, sur Jet FM, avec Johnny Tiefbeck et Helmut Schwartz.